Radio Okapi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Okapi, 12 morts, dont des policiers et des militaires, ainsi que des maisons détruites. C'est le nouveau bilan d'un conflit foncier qui oppose les populations des deux villages de la chefferie des Loups, territoire d'Aru à Ituri. Clôture hier à Lubumbashi de la conférence sur la restauration de la justice en RDC. Les recommandations formulées au cours de ces assises à suivre dans ce journal avec Jean Gandou. Freddy Nyamabou, directeur de la banque Equity BCDC pour la région du Kasaï, est l'invité de ce journal. Avec lui, nous parlons du projet pour la promotion de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, lancé cette semaine au Kasaï oriental. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Province de l'Ituri pour commencer. 12 morts, dont 4 policiers, 3 militaires et plusieurs maisons détruites. Tel est le bilan revu à la hausse d'un conflit foncier qui oppose depuis lundi les populations des villages Nyatsa et Adravu dans la chefferie des Loups, territoire d'Aru. Il est communiqué par les notables de cette entité qui déplore la récupération de ces conflits coutumiers internes par ceux qu'ils qualifient d'ennemis de la paix. Des sources locales concordantes parlent d'un déplacement massif des habitants. La notabilité d'Aru appelle les deux parties à recourir aux moyens pacifiques pour résoudre leurs différends. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
L'accès aux deux villages Nyatsa et Adravu, situés à une douzaine de kilomètres d'Aru centre, n'a été possible que depuis jeudi après-midi, indiquent plusieurs sources locales. Des affrontements ont opposé mardi les habitants des deux localités qui, selon des sources coutumières, se disputent une portion des terres déjà à la base de notre conflit meurtrier qui avait coûté la vie à de nombreux civils en 2015. Le bilan avancé par diverses sources locales et de la société civile fait état de 7 morts, parmi lesquels 3 militaires et 4 policiers, dont 3 corps ont été découverts vendredi. Une information que l'armée n'a pas encore confirmée. Ce bilan vient s'ajouter aux 5 autres corps des civils qui avaient déjà été récupérés les jours de ces incidents, indiquent des sources concordantes. Plusieurs maisons, dont un bureau de la police au chef-lieu de la chefferie et 2 véhicules ont été incendiés, soulignent les mêmes sources. Les ressortissants de la chefferie des Loups invitent les gouvernements provinciaux à renforcer des mécanismes de sécurisation des civils et aussi initier des rencontres pour privilégier la cohabitation pacifique dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Justement, ces conflits de limites entre les villages Nyatsa et Adravu dans la chefferie des Loups en territoire d'Aru n'a rien à voir avec les groupes armés Kodeko et Zahir qui sévissent dans les territoires des Djougou. Cette mise au point est contenue dans une déclaration faite à la presse hier par les ressortissants de la chefferie des Loups vivant à Bounia. Ces notables déplorent le fait que certains ennemis de la paix ont récupéré ces conflits internes pour saboter le processus de paix en cours et déstabiliser ces territoires. Nzia Bedra Martin, porte-parole de cette structure, dénonce ses comportements et invite le gouvernement provincial à rétablir urgemment l'ordre dans cette contrée avant la rentrée scolaire prévue le 4 septembre 2023. Ces propos sont recueillis par Ezekiel Mouzalia.
Les conflits ici ne concernent que quelques fils et filles des deux villages Nyatsa et Adravu et n'a rien à voir avec les groupes armés Kodeko et Zahir. Nous recommandons aux fils et filles d'Aru de garder leurs valeurs pacifiques, d'observer la retenue et privilégier les voies pacifiques de résolution de ces conflits comme en 2015. Au gouvernement provincial de rétablir l'ordre public troublé avant la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, d'éviter des messages susceptibles d'attiser les feux entre les communautés locales et faire récupérer ces conflits internes par les ennemis de la paix en Ituri qui utilisent les conflits pour leur business privé.
Pendant ce temps au sud Kivu, des affrontements opposent depuis jeudi deux groupes armés Maïmaï, Yakutumba et Biloze Bishambuke dans les localités de Ngalula et Nyange à l'extrême sud du territoire de Fizi. Cette zone minière est frontalière avec le Maniema et le Tanganyika. Des sources de la société civile de Lukolo au Maniema voisin affirment que des coups de feu à la mitraillette et à l'arme lourde entre les antagonistes étaient encore entendus hier vendredi sur les montagnes surplombant ces deux localités. Fiston Goma.
Des sources locales affirment que les combattants Maïmaï Bilozobi Chambouké ont attaqué deux positions de Yakutumba pour tenter de libérer l'un de leurs combattants arrêtés par le Maïmaï Yakutumba. Les tirs ont semé la panique parmi les civils qui sont restés confinés chez eux à la suite des détonations d'armes lourdes et légères entendues à Niangé, Ngalula jusqu'à Lukolo, au Maniema voisin. Olivier Luamba Lusambia est point focal de la société civile à Lukolo, secteur de Babouyo Maniema.
Le village est toujours inconnu parce que l'affrontement continue. Nous sommes en train d'attendre le coup de barre dans les hauts plateaux. C'est presque une distance de 25 km du village d'Ngalula, dans les monts Mitumba.
Ces combats se déroulent dans les secteurs d'Nganja, groupement des Babungwe Sud, où des combattants du groupe Yakutumba sont accusés de violations des droits humains. Pas plus tard que mardi dernier, quatre de leurs hommes armés sont entrés par effraction au domicile d'un creuseur artisanal d'or à Niangé. Ils se sont emparés de lui et l'ont amené à une destination inconnue. Les FARDC disent être informés de cet activisme de plusieurs groupes armés locaux dans la zone. Un combattant Bilosebi Chambouké a été blessé par balle pendant ces échanges de tirs et les combattants Yakutumba ont réussi à repousser les camps adverses. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Je l'ai dit dans les titres, fin hier vendredi à Lubumbashi de la conférence organisée par la structure dénommée FLAG, la foi et la loi autour du globe. Au cours de ces deux jours de travaux, plusieurs thèmes ont été développés. C'est notamment l'état des lieux de la justice en RDC, le juriste comme fruit de la lumière, le bilan du serment de l'avocat congolais et autres. Les participants parmi lesquels les magistrats, les avocats et autres huissiers ont fait plusieurs recommandations pour la restauration de la justice. Jean Gandou pour les détails.
La plupart ont réalisé que la justice congolaise est malade. Pour sa restauration, il importe que chaque membre de l'appareil judiciaire joue bien sa partition dans le respect des lois du pays. C'est ainsi qu'il a été demandé aux participants, au regard des différents écueils épinglés, que tout celui qui reconnaît travailler en marge de la loi se ressaisisse et s'engage résolument sur la voie du changement et de l'excellence. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été recommandé que chaque acteur se départisse des antivaleurs qui ternissent l'image de la justice. C'est entre autres la corruption et l'impunité, et que chacun respecte son serment professionnel. Que les magistrats respectent et fassent respecter la loi, que le respect du droit et de la justice caractérise toutes les actions amenées devant les cours et tribunaux, que les magistrats évitent de rendre des jugements tordus, et que les avocats et autres acteurs de la justice s'impliquent aussi dans cet élan du changement, en effaçant que ce qui est juste et légal, et cela sans compromission. En pareille circonstance, la responsabilité de chacun est engagée, et c'est à cette condition que la justice relèvera notre nation, a conclu un des participants. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, les femmes ambassadrices de la paix au Nord Kivu réaffirment leur engagement et détermination à se battre pour le retour de la paix dans cette province. C'est notamment à travers la sensibilisation et la démobilisation des groupes armés locaux. Cette structure des femmes a rencontré hier à Goma le gouverneur des provinces, le général Constant Ndima, pour lui présenter leur structure ainsi que le programme de leurs activités. Qu'est-ce qui explique cet engagement des femmes du Nord Kivu, Sifa Maguru?
Cette structure des femmes dénommée Ambassadrice pour la paix au Nord Kivu regroupe les femmes ressortissantes des quatre territoires de la partie sud du Nord Kivu. Celles-ci se disent fatiguées par la guerre qui se pérennise dans leur milieu, provoquant d'énormes conséquences humanitaires et socio-économiques, comme le dit Madame Liberata Rubumba, leur porte-parole.
Nous n'allons pas chaque fois parler des victimes. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes les actrices de la paix. Vous le savez, nous avons beaucoup de armée ici chez nous dans les provinces du Nord Kivu, et nous voudrions aussi participer à la sensibilisation, à la démobilisation de nos jeunes enfants, parce que tous ces enfants nous appartiennent. Elles sont nées des mères, et comme vous le savez bien, quand la maman parle, l'enfant écoute. Et nous sommes confiantes que ces enfants vont nous écouter. Nous allons contribuer à la démobilisation de ces enfants.
Notez que ce projet des femmes ambassadrices de la paix fait partie intégrante des projets appuyés par la MONUSCO à l'est de la RDC à travers la division des affaires politiques. Il s'inscrit dans l'application des recommandations des Nairobi 3 sur le processus de paix. Il vise entre autres à appuyer les processus de désarmement et à donner des alertes précoces sur les plans sécuritaires. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Direction le Kassai oriental où plus de 200 femmes de troisième âge qui nettoient les grandes artères des Mbujimayi réclament la prime de prestations impayée depuis plusieurs mois. Certaines déclarent n'avoir touché qu'une seule fois la prime de $150 lors du séjour en Mbujimayi du chef de l'État au mois de décembre dernier. En réaction, le maire de Mbujimayi affirme avoir trouvé cette situation au moment où il a accédé aux responsabilités à la tête de la ville. Il ajoute qu'il est en contact avec les responsables des associations qui recourent au service de ces mamans pour qu'une solution soit trouvée. Radio Kapi Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Chaque matin, de lundi à samedi, plusieurs femmes de troisième âge balayent les grandes artères de Mbujimayi. Ces femmes sont très visibles sur le boulevard Mzee Laurent Désiré Kabila, sur l'avenue Inga, avenue Lumumba et bien d'autres avenues. Cependant, plusieurs d'entre elles réclament la prime de prestations non payées depuis plusieurs mois. Témoignage.
Ça fait 3 ans que nous balayons. Nous ne recevons rien et même ça, c'est qu'ils doivent nous payer. Lorsque les présidents étaient venus, ils nous ont donné $150. Moi, j'avais touché à cette prime.
Contacté, Jean-Marie Lutumba, maire de la ville de Mbujimayi, dit être en possession des listes de ces femmes, mais leur demande de la patience.
Je trouve que je suis devant les associations sans but lucratif. Quelqu'un qui travaille dans une association sans but lucratif, il n'a pas besoin d'être rémunéré. Étant donné que la majorité sont des vieilles dames, ils sont au service de la ville. Ce sont nos mamans, nous devons songer à elles, mais elles doivent être calmes. Au moment opportun, nous chercherons quoi faire. Tout ce que le maire de Mbujimayi évite, c'est prendre ces femmes en charge, mais qu'elles soient aussi utilisées pour des fins politiques. Là, la mairie n'est pas d'accord.
Chaque femme qui vient pour balayer est contrainte d'amener son propre balai. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La taxe GoPass est une arnaque aéroportuaire. La déclaration est de l'ONG Programme Multisectoriel de Vulgarisation et Sensibilisation PMVS. Le coordonnateur national de cette organisation réclame la suppression pure et simple de cette taxe car depuis son existence, rien n'a changé dans nos aéroports, affirme-t-il. Ludivic Kalengai est au micro de Mervé Hassani.
C'est depuis 2009 que cette taxe a été initiée. Plusieurs millions de dollars ont été volatilisés d'une manière incontrôlée et c'est de l'arnaque aéroportuaire. Une autre manière d'appauvrir la population et de détruire l'image du pays. Vous vous imaginez quand les investisseurs doivent venir au pays ou certains diplomates. Notre aéroport est en train de ressembler à une boutique qui reçoit des marchandises venant des 4 provinces. Et ça détruit l'image du pays. Nous nous rappelons que le directeur général de la RVA avait indiqué que la RVA avait une dette de la DGI de 256 milliards. Nous ne savons pas où en sommes-nous de cette situation. Les aéroports ne sont pas rénovés. L'objectif de la RVA, c'est de réhabiliter, c'est de même construire d'autres aéroports. Nous ne savons pas des milliards de dollars qui ont été récoltés sur base de chaque voyageur qui devrait payer $55 pour des voyages internationaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent ?
Contacté à ce sujet, le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA promet de réagir ultérieurement. Par ailleurs, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, une forte pluie accompagnée de vents violents a emporté la toiture de l'école primaire Mahano dans la localité de Kantina Loya. C'est à une 40 kilomètres de la ville de Beni. À quelques jours de la rentrée scolaire, le président de la société civile de Kantine lance un SOS aux personnes de bonne volonté, aux organisations humanitaires ainsi qu'au gouvernement de venir en aide à cet établissement afin de permettre aux élèves de prendre le chemin de l'école le lundi 4 septembre. Elkas Kisala est au téléphone de Marc Marofimbo.
Ce mercredi 23 août, l'école primaire Mahano de la Convention catholique se trouvait à Kandine dans le groupement Bassoama Diwe, s'est trouvé dépourvu de ses toitures suite à un vent violent qui a causé plusieurs autres dégâts. Plus de 10 classes sur une quinzaine de cette école sont jusqu'à présent sans toiture. Étant donné que c'est quasiment la rentrée scolaire, nous appelons les gouvernements, mais aussi des hommes de bonne volonté de nous venir au secours pour que cela n'ait pas d'impact négatif aux activités de la rentrée scolaire.
Et puis, dans les territoires de Mwenga au sud Kivu, le pont Zalia se trouve dans un très mauvais état depuis quelques jours. Cet édifice, situé sur la rivière Zalia, relie le territoire de Mwenga à la ville de Bukavu, en passant par le territoire de Walungu. Le moine Mikalenge Riziki, chef coutumier de Basile, en parle dans un plaidoyer adressé aux responsables de l'office des routes Sud-Kivu. Selon lui, si ce pont situé sur la route nationale numéro 2 n'est pas réfectionné dans l'urgence, il va s'écrouler et ce sont les habitants de Kamituga qui en seront les premières victimes. On écoute le moine Mikalenge Riziki au micro de nos collègues de Bukavu.
Nous sommes rendus à la direction provinciale de l'Office des routes pour déposer notre note de plaidoyer en ce qui concerne la nécessité à pouvoir réhabiliter les ponts Zalia qui se trouvent sur la nationale numéro 2 en territoire de Mwenga. L'état de ces ponts aujourd'hui présente un danger permanent pour les usagers même de cette route nationale numéro 2 et que donc nous demandons en tout cas aux FONER à pouvoir mettre des moyens pour que l'office de route puisse réhabiliter ces ponts qui en tout cas aujourd'hui a besoin d'être retouché pour l'intérêt de tous les usagers de cette route nationale numéro 2 mais également pour l'intérêt de la population du territoire de Mwenga, qu'on puisse en discuter et apporter des solutions idoines en ce qui concerne la réparation de ces ponts. Donc l'office des routes, il n'attend que les moyens qui doivent venir du FONER pour que ces ponts puissent être retouchés.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron invite officiellement les partis politiques représentés au Parlement à une réunion le 30 août, une main tendue loyalement afin de bâtir ensemble des textes législatifs et d'ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums. Le chef de l'État précise ainsi son initiative politique d'ampleur annoncée au milieu de l'été. Les discussions, une après-midi et un dîner, porteront sur la situation internationale et ses conséquences pour la France, l'efficacité de l'action publique et la cohésion de la nation selon un courrier rendu public ce samedi 26 août, rapporte l'AFP.
L'invité.
Le projet conjoint pour la promotion de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo a été lancé cette semaine au Kasaï-Oriental. Ce projet est implémenté par le Programme alimentaire mondial PAM et la Banque commerciale Equity BCDC. Freddy Nyamabu, directeur de la Banque Equity BCDC pour la région du Kasaï, nous en parle dans cet entretien accordé à Esther Ndalafina.
Bonjour monsieur Freddy Nyamabu.
Bonjour madame la journaliste.
La banque Equity BCDC et le programme alimentaire mondial, le PAM, vous avez lancé cette semaine un projet conjoint dans le cadre de la promotion de la sécurité alimentaire au Kasaï-Oriental. En quoi consiste ce projet?
Le projet consiste à sélectionner un certain nombre de coopératives ou structures qui travaillent dans le secteur agricole, les former, les sensibiliser sur la sécurité alimentaire. Parce que l'objectif derrière, c'est d'arriver à former toutes ces structures pour les financer, les accompagner dans la réalisation de leurs activités afin que nous puissions résoudre le problème de la sécurité alimentaire dans notre région, principalement au Kasaï-Oriental.
Avant de mettre en œuvre ce projet au Kasaï-Oriental, vous formez les agriculteurs et les responsables des organisations paysannes. Sur quoi porte la formation?
La formation a des parties principales. Il y a la partie qui concerne les techniques agricoles qui est dispensée par les agronomes et la deuxième partie concerne la gestion financière, c'est la planification, l'accès au marché, comment être éligible dans l'établissement du plan d'affaires au niveau de la banque et quelles sont les exigences que la banque recherche lorsqu'on fait l'octroi des crédits.
Quels sont les mécanismes d'accès au crédit auprès de Equity BCDC?
Normalement, quant au secteur agricole, nous demandons tout simplement que la personne ait les documents d'activité délivrés au niveau de la province et la personne ait aussi ou la structure ait aussi une expérience de plus ou moins de 2 récoltes. Ça, ce sont les éléments que nous exigeons d'une manière générale.
À quelle hauteur la banque Equity peut octroyer le crédit et pour combien d'années?
Normalement, l'octroi des crédits, c'est en fonction des capacités de chaque structure, en fonction de leur production, parce que nous menons une étude sur terrain pour voir un peu la viabilité, la rentabilité de cette activité en fonction du besoin aussi du projet que nous déterminons, les montants d'octroi des crédits. Mais d'une manière générale, la banque elle est ouverte à donner n'importe quel montant pour l'octroi des crédits, nous donnons n'importe quel montant.
Et comment se fera le remboursement?
Donc le remboursement, quant au secteur agricole, le remboursement se fait en fonction du cycle, ça dépend de la culture, telle que financée, par exemple, vous n'allez pas demander à la personne qui fait la culture du maïs de rembourser les crédits comme la personne qui fait la culture pérenne telle que les cafés. Donc c'est par rapport au cycle d'activité que nous octroyons les crédits et les remboursements aussi se fait en fonction de ces cycles-là.
Pouvons-nous connaître les critères d'éligibilité?
Les critères d'éligibilité pour l'octroi des crédits, la première des choses, comme j'ai dit, il faudrait que la personne ait ses documents d'activité et d'aider à avoir une expérience et avoir aussi les business plans. Ce sont les trois éléments que nous exigeons pour déterminer si la personne est qualifiée ou pas.
Parce qu'il s'agit d'un projet conjoint, quelles sont les responsabilités de PAM et aussi les responsabilités d'Equity dans ce projet?
C'est un projet que nous travaillons ensemble avec PAM. L'idée pour nous, c'est lorsque nous octroyons les prêts à nos agriculteurs, nous devons aussi nous rassurer que ces agriculteurs ont aussi des débouchés. Les débouchés, c'est vraiment les marchés. Et à ce moment-là, les PAM peut aussi acheter leurs produits. Comme les PAM aussi a un programme de distribution de vivres, on peut aussi faire cette jonction-là, il y a, nous finançons les agriculteurs, ces agriculteurs produisent et PAM achète ces produits ou ces semences aussi qu'on peut aussi donner à d'autres opérateurs économiques et là nous avons tout un cycle qui est bien organisé dans ça.
Et la province du Kassai-Oriental a 5 territoires et là nous voyons le nombre de participants ne représente pas tous les 5 territoires.
D'une manière générale, nous avons sélectionné parce qu'il y avait une offre qui avait été lancée et il y a les coopératives qui ont été sélectionnés en fonction de leurs projets qu'ils avaient soumis, en fonction des critères aussi. Et nous pensons que tous les territoires sont représentés à cette formation ici. Il faudrait aussi comprendre que c'est juste un projet pilote et nous le faisons dans des provinces. Il y a la province du Kassai-Oriental et le Congo central. Et une fois que nous avons les résultats vraiment escomptés, nous pouvons l'étendre sur l'étendue de la République.
Merci beaucoup.
Le directeur de la banque Equity BCDC pour la région du Kassai répondait aux questions d'Esther Ndalafina. Fidèles auditeurs, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Pele Kipelamondo. Alain Goy a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Massanzi était à la présentation. Merci de nous avoir suivis et de réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Excellent week-end chez vous.